Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta présence parmi nous ce matin. Aide-nous à recevoir de toi. Pas d'un homme. On a besoin de toi dans nos vies. De savoir ce que tu as préparé pour nous. De savoir combien tu nous aimes, Seigneur. Je te demande aussi de venir à notre pasteur où elle est avec sa femme. De le protéger, qu'il soit une bénédiction pour où elle est, Seigneur. En même temps, pour Horacio et Marion qui sont à Paris, de le venir, de le protéger. Et je te demande aussi pour Sarifa qui est malade actuellement, de la guérir, de l'accompagner. Et en même temps, pour les personnes qui sont malades et qu'on ne sait pas, Seigneur. Merci de lui donner une portion particulière. Amen. On va parler de deux personnes, surtout ce matin. Mais avant, j'aimerais qu'on réfléchisse à quelque chose. Il y a quelques jours, il y a un décès en Corée du Sud. C'était un jeune de 24 et 25 ans qui s'est suicidé. C'était très connu dans son pays. C'était un musicien. Et j'ai commencé à penser comment quelqu'un peut arriver à ça. Comment quelqu'un peut avoir un tel monde vide dans son intérieur qu'il peut arriver à se quitter la vie. Et après, j'ai pensé à un autre cas. C'est une image, ce n'est pas de vrai, mais vous pouvez imaginer une femme belle, on peut dire belle, 35 ans, qui ne soit pas mariée, et que tout le monde la regarde et commence à se sentir un peu qu'est-ce que j'ai fait de mal, comment je suis arrivé à cet âge sans être mariée. Et on peut voir que parfois, il y a ces personnes-là, ils sont une solitude, une tristesse, tellement qu'ils peuvent arriver à la dépression. Et un autre cas, une femme plus âgée, là on peut dire 55 ans, qui vient de perdre un enfant. Quelle tristesse de perdre un enfant. Ça peut nous arriver à tous, je dis, peu importe quel parent, ça peut arriver ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Cette femme, peut-être, avec la tristesse que ça lui donne, elle peut arriver aussi à la dépression, à s'enfermer sur elle-même, à se dire pourquoi Dieu t'a fait ça. Mais après, je pense à un autre cas, à un homme qui perd son travail. C'était son gain-pain, c'était la façon de nourrir sa famille. Mais on peut aller plus loin dans ces réflexions. Quelqu'un qui ne peut pas avoir une promotion, quelqu'un qui a décidé d'avoir une promotion, il travaille toute sa vie, il ne l'a pas. Ou un autre cas encore, qu'il a une promotion mais ne l'accepte pas, que c'est trop dur pour moi de prendre cette responsabilité. De se dire, si je prends cette nouvelle poste, ça va me prendre plus de temps, je vais avoir plus de responsabilités, je ne veux pas ça. Mais il y a beaucoup de cas similaires dans la Bible. Ah oui, il y a beaucoup de cas similaires dans la Bible. Et on va voir ça ce matin. Mais pour commencer, on va lire en Jérémie 17, versets 9 à 10. Jérémie 17, versets 9 à 10. Il dit comme ça. Le corps est tordu par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Le corps est tordu par-dessus de tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le corps. Je sonde les reins pour vous rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Ça, c'est très intéressant. Et moi, la parole qui dit tortue, moi, pour moi, dans ma traduction, c'est. Oui, comment? Pour moi, l'introduction, c'est trompeur. Et qu'est-ce que c'est ça? La définition pour dire exactement, c'est quelqu'un qui nous guide mal, qui n'est pas honnête. Et c'est ça notre corps, vraiment. Il nous guide mal. Il n'est pas honnête dans la chose qu'on désire. Et c'est très intéressant que beaucoup de fois, on peut entendre, « Oh, mais lui, c'est quelqu'un de bien. Il a un bon corps. » Un bon corps. Comment vous saviez qu'il a un bon corps? S'il dit que Dieu dit que c'est trompeur. La seule personne qui le sait, c'est Dieu, vraiment. Mais nous, on a cette tendance à dire, « Ah, mais lui, il est comme ci, il est comme ça. » Et on se trompe beaucoup de fois. Et ici, j'ai dit ce matin qu'on va parler de deux personnes, c'est de Saül et David. On va parler. C'est le premier roi. Et on va lire à 1 de Samuel, chapitre 9, verset 2. 1 de Samuel, chapitre 9, verset 2. On va réciter tout, je ne vais pas lire tous les versets, mais une bonne partie. Hein. Il avait un fils du nom de Saül, qui était jeune et beau, plus beau que tous les Israélites, et qui dépassait tous de une tête. On voit déjà Saül, il était beau, jeune, grand, c'est-à-dire que c'est possible que tout le peuple le connaissait. C'est qui lui? C'est le plus beau. C'est qui lui? Ah, c'est le plus grand. Et il venait d'une bonne famille aussi, on ne va pas tout citer. Et il aussi connaissait à Dieu. Et dans le chapitre 9, il parle de lui, il dit qu'il devait chercher quelque chose. Et il a dit, on va chercher le prophète, il sait où il y a tout. En plus, on va lui amener un cadeau au prophète. Et c'est très intéressant parce que bon, là, c'est quand Samuel le retrouve et après il est choisi comme roi d'Israël. Ça, c'est dans le chapitre 12. Après le chapitre 13 de Samuel, il dit que Saül n'attendait pas que Samuel revienne. Et on commence à voir que depuis là, la victoire de Saül, ça change tout. Ça change sa vie aussi. En 1 de Samuel 15, c'est la dernière fois que Samuel va voir à Saül. Et on va lire... En 1 de Samuel 16, versets 7 à 13. Là, en chapitre 16, c'est plus spécial parce que c'est David qui commence à apparaître. Il dit comme ça. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prêtez pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela à Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer sa main et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer sept de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, tous tes fils sont-ils là? Il répondit, il reste encore les plus jeunes, mais il garde les brebis. Là, c'est intéressant. Parce qu'il pouvait dire, il reste les plus petits, mais ça ne sert à rien que tu le regardes. Mais il dit, en plus, il dit, là, il garde les brebis. Vraiment, il ne sert à rien. Que pour ça? Mais là, il dit, alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Et Isaïe envoie quelqu'un le chercher. Et là, comme David est venu, il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. Et ni dit pas ça par rapport à sa grandeur. Bon, peut-être il était beau, mais pas plus beau que Saoul. Saoul, le plus beau d'Israël. Là, il dit, ok, il est beau, ça va. Mais physiquement, peut-être qu'il n'attirait pas l'attention comme Saoul. Et l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Samuel prit la corne de l'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. Toute sa famille présente, ils ont vu à David et Tréguin. L'Esprit de l'Éternel vient sur David et à partir de ces jours et par la suite, Samuel s'éleva et partit à Rama. Là, c'est très intéressant. On voit que Saoul était le roi et il connaissait Dieu. Il a pris de mauvaises décisions et Dieu l'a cherché un remplaçant. Il a renvoyé à Samuel et l'a envoyé à David. Maintenant, pour nous, on connaît tous à Christ, on était sauvés, on a reconnu qu'on était pécheurs, qu'on avait besoin de lui. Ça a changé à quoi ça dans notre vie? Dans le moment qu'on a dit, Seigneur, j'ai besoin de cette croix, de ce que tu as fait pour moi. Ça a changé à quoi? Dieu nous a donné quoi? Dans ce moment-là précis, on a obtenu une nouvelle vie, un nouveau corps, une nouvelle façon de penser. Et nous a créé de nouveaux besoins, de nouveaux besoins, de nouveaux besoins. Et c'est intéressant, mais chaque fois qu'on fait quelque chose, une action, derrière l'action, il y a les pensées. Derrière les pensées, il y a nos désirs, nos besoins. Nos désirs, nos besoins. Dieu nous donne une nouvelle façon de penser. Qu'est-ce qui s'arrive quand on connaît Christ? Moi, je me rappelle pour moi, j'étais jeune. Et ok, j'ai reconnu que j'étais pécheur, que Dieu est venu à mourir pour moi, il s'est donné à la croix pour moi, et que je pouvais dire que je suis propre de mes péchés. C'est Dieu qui m'a nettoyé. Maintenant, je veux connaître celui qui a donné sa vie pour moi. Je veux connaître sa vie, celui qui a donné pour moi. Et chacun qui est là ce matin est en train de faire ça. On est là, pas parce qu'on a une habitude, on veut connaître plus de celui qui nous a aimé, qui a donné sa vie pour nous. Et c'est très important de réfléchir à ça, que chaque action que nous faisons, il y a une pensée, il y a des sentiments, il y a des désirs. Parce que dans nos désirs et nos pensées, le plus profond, c'est notre corps. Et comment est notre corps? Il est tortueux, il est pervers, il dit des mensonges. Mais c'est Dieu qui le connaît. Et c'est très intéressant parce que Dieu dit à Samuel, ne regardez pas son extérieur. Ça, c'est les hommes qui regardent l'extérieur. Mais moi, je regarde l'intérieur. En 1 de Samuel 17, on voit que David a tué à Goliath. David a tué à Goliath. Quelque chose que personne n'imaginait. Pourquoi? Physiquement, on voit quelqu'un énorme, parce que Goliath, il était énorme, avec une armature qui, je ne sais pas, il faisait combien, 20, 50 kilos dessus. Et on voit David, qui ont essayé de lui mettre quelque chose, mais il ne pouvait pas la porter. Il se doit enlever. En plus, Goliath, il se moque de lui. Comment tu vas venir avec des pierres et des bâtons pour moi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Goliath, il est mort. C'était la force de David qui a fait ça. C'était son intelligence. Ou c'est Dieu qui lui a donné une nouvelle façon de penser. Avec ça, quelques pierres, je vais avoir suffisant pour le tuer. Dieu nous donne une nouvelle façon de penser. C'est Dieu qui fait les miracles. Et qu'est-ce qu'on voit? En 1 Samuel 18, verset 2, après que Goliath il est mort, Saoul le demande, commence à dire, c'est qui lui? Et bien sûr, personne ne le connaissait. C'est qui son père? la personne qui dit non, je connais pas son père, il l'amène à côté de lui. Et le verset 2 de 1 Samuel 18, il dit: ce même jour, Saul retient David et ne le laissait pas retourner dans la maison de son père. C'est-à-dire que Saul l'a vu et il a dit: maintenant, tu restes avec moi. Tu restes avec moi maintenant. C'était quelque chose, waouh! On voyait la main de Dieu sur ça. Mais qu'est-ce qui se passe après? Et après, on va lire verset 5 à 8. 1 Samuel 18, verset 5 à 8. Il n'y a pas beaucoup de versets, mais il y a beaucoup d'histoires qui se passaient. Mais il s'est dit comme ça. David allait et réussissait partout où il envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des champs de guerre et il plaçait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il ait été tué des Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son de tambourins et de triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes à les autres, en disant: Saül a frappé ses mille. Saül a frappé ses mille. Et David, ses 10 000. Ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: on le donne 10 000 à David et c'est à moi qu'il le donne les 1 000. Et il lui manque plus que les royautés. Waouh! D'abord, il est très content avec David. Il le met dans sa maison. David, il l'envoie à plein de guerres. Il gagne toutes. Et là, il entend un discours qui ne le plaît pas. Ça peut nous arriver à nous aussi? Parce que là, je parle de l'histoire de deux chrétiens. Si on voit dans la Bible, de chapitre 16 jusqu'au 31, il parle que de David et que de Saül. Mais là, on voit bien que Saül n'était pas content. Mais on est des chrétiens, on est pour la gloire de Dieu. Pourquoi tu n'es pas content? Et on peut avoir les choses de deux façons. On peut avoir une bonne pensée avec Dieu ou une mauvaise façon de penser avec Dieu. Quelle est la bonne, quelle est la mauvaise? Ça, c'est la clé. Quelle est la bonne et quelle est la mauvaise? Comment vous interprétez votre vie? Votre vie, elle est bien ou votre vie, elle est mauvaise? Elles sont où vos désirs? Le plus profond de votre corps, vous le connaissiez ou pas? Avant, j'ai donné 3 exemples. Une personne qui perd son fils, une personne qui n'arrivait pas à se marier, une autre personne qui ne trouvait pas un emploi. C'est où les pensées de chacun? Elles sont bien les pensées de chacun? Une personne qui n'arrêtait pas de chercher un couple? Une autre personne qui n'arrêtait pas de chercher le fils qu'il a perdu? Une autre personne qui n'arrivait pas à trouver ses besoins financiers? Toutes ces choses sont bien, hein? Je n'ai pas dit le contraire. Avoir un couple, avoir une famille, avoir un bon travail, tout c'est bien. Hein? Mais dans quelle place on l'a mis dans notre vie? Ça a pris quelle place dans notre vie? Parfois, avoir un bon travail, ça déploie 24 sur 24. Ça ne laisse pas de la place avoir une famille, ça ne laisse pas une place avoir une relation très très importante. Quelle est la relation la très très importante qu'on a nous? C'est là, c'est la croix. Ça, c'est la bonne place. La bonne place dans ma vie, c'est d'abord, je cherche ma relation avec lui. ma relation avec lui. Une femme, un homme, Dieu va me le donner dans son temps. Si c'est sa volonté. Un bon travail, Dieu va me le donner dans son temps. De la santé, aujourd'hui le monde peut dire, je n'ai pas le temps pour Dieu, il faut que je fasse des sports, que je prenne mes vitamines, je dois garder mon corps. J'ai vu une personne comme ça et c'est triste, mais quelques années plus tard, il était décédé pour un accident. Oui, il faisait attention à son corps. Mais il n'a pas fait attention au plus important, la croix. Et par rapport à la vie de, par rapport à la vie de David, c'est très intéressant parce qu'il pouvait dire Saül, il a pris ses temps en le cherchant pour le tuer. Et en plus, il dit, c'est où? Attends, je vais le lire. Vraiment, Saül, il avait peur de David. Pourquoi? De perdre son royaume. Mais là, une chose intéressante, c'est que Saül, il avait peur et il a dit, comment je peux régler ça? Et il a fait de la façon la plus naturelle et charnelle possible. Parce qu'il s'écrit en 1 Samuel 19, Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir à David. Saül, la solution pour Saül, selon lui, c'était de tuer à David. David, son serviteur, c'est celui qui le posait des problèmes. C'est grâce à David qu'ils ont tué à Goliath. Il aurait déjà perdu son royaume il y a longtemps. Comment on peut se laisser écouter son mauvais corps? On peut écouter notre mauvais corps parfois aussi. Et c'est très intéressant quand on écoute nos corps parce qu'on va lire en 2e Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Ça parle de que, moi on va le lire. Mais selon que Dieu nous a jugé dignes de nous confier l'évangile, 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Je me suis trompé. Attends, je vais le trouver ici. Antes d'initiant, 2, verset 4. On change de version. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont dans nos cœurs. Waouh! Non pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont dans nos cœurs. Quand j'ai commencé, j'ai raconté d'un jeune qui est décédé en Corée du Sud. Et j'ai entendu quelqu'un parler de ce pays. Pourquoi il l'a fait? Il a dit que ce n'est pas la première personne très connue qui fait ça en étant jeune. Mais il dit qu'il a tellement pression pour ce qu'il fait dans son pays qu'il n'a pas de temps pour une autre chose. C'est-à-dire qu'il se réveillait à 7 heures jusqu'à 10 heures du soir et c'était que son travail. Bien sûr, il était regardé dans son moment. Tout le monde le regardait et le critiquait. Il ne pouvait pas faire une autre chose. Et après, on s'est dit, oui, mais il avait le choix de tout abandonner et vivre de ses gars. Mais même comme ça, il dit que son pays ne l'acceptait pas. Et tous ces pays, pardon, je vais généraliser parce que c'est ce que j'ai entendu, après vous pouvez me demander de où j'étais cette information, mais il dit que ces pays, c'est les plus artificiels, les pays où il y a les personnes regardent beaucoup les physiques et les matériels. Physique et matériel. Et c'est le pays où il y a le plus de taux de suicide, c'est là-bas. Et quand on commence, on veut les parler de l'évangile, ils disent non, il ne faut pas écouter l'évangile. Ma vie, elle est bien comme ça. Mais c'est une norme qu'ils sont là-bas. Et même s'il y a beaucoup d'évangélistes là-bas, ils se disent ça. On les ferme la porte à Dieu. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient des suicides. Si ce n'est pas les guerres, c'est les suicides. Comment on peut arriver à ce point-là? Et une chose très intéressante, c'est que Dieu nous cherche à nous individuellement. Et Dieu veut avoir une relation avec nous individuellement. Et comment on leur répond? On leur dit, non, Dieu, c'est dimanche matin, tu sais que dimanche matin, je préfère aller à la salle de sport. Mon cher bien, faire la bonne cuisine, ça prend du temps. Pour ma santé, c'est convenant de ne pas venir à l'église le dimanche matin. Oh non, tu sais que pour avoir une bonne voiture, il faut que je travaille le dimanche matin. En plus, ça paye plus le week-end. Je ne vous dis pas la nuit aussi, hein. Quel est notre but? Pourquoi on est ici? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Non, le dimanche matin, il faut que je me consacre à mon mari. Mon mari, il aime bien prendre son petit déjeuner tranquille avec moi. Oh, mais le repas en famille le dimanche midi. Vous savez, une chose que j'ai pensé il n'y a pas longtemps, j'ai dit, moi je suis argentin, comme vous le savez. Et en Argentine, quand j'étais petit, j'avais une habitude. Le dimanche matin, ce n'est pas les protestants qui vont à l'église, c'est les catholiques. Et le dimanche soir, c'est les protestants. Et j'aimais bien, c'est quelque chose que, je ne sais pas, j'aimais bien le fait de, que le dimanche soir, c'est les cultes à l'église. Et quand j'étais petit, une chose que je suivais bien un pasteur, c'était que je regardais l'heure. Et quand c'était 21h du soir, c'était tout le temps le mercredi, je ne sais pas pourquoi les pasteurs il faisait plus long le mercredi. Et à 21h du soir, j'ai sorti la montre. Je l'ai montré à pasteur, je me mettais dans les couloirs et je faisais geste avec la montre. Et je faisais ça pendant, je ne sais pas, peut-être des années, j'étais petit. Hein. Je lui montrais la montre au pasteur comme c'est l'heure, c'est nevor, tu coupes. Et bien sûr, j'étais petit, j'étais charnel, tout ce que vous voulez dire, mais après, plus tard, j'ai appris une chose. Pas importe que je lui montre la montre, le culte va finir quand Dieu va le dire, quand Dieu va guider la fin. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui, on compte beaucoup sur le temps. Venir à l'église, ça prend du temps. Manger aussi, ça prend du temps. Que mon âme mange de bonnes choses, c'est la meilleure chose que je peux faire pour ma vie. Lire la parole, ça prend du temps. Venir à l'institut biblique, ça prend du temps. Venir à l'évangélisation, à Sion, ça prend du temps. Ça prend de l'argent. Venir au camp d'été, aller au camp de Nîmes, ça prend du temps. Ça prend de l'argent. Ça prend des jours de vacances aussi. Mais qu'est-ce que c'est plus important? Que mon âme mange bien, que mon corps soit bien alimenté, ou que mes désirs charnels soient comblés. Avoir ma belle voiture, avoir ma belle maison, avoir ma belle santé, ma belle famille. Et j'ai dit déjà, beaucoup de personnes ont pu dire, tu as regardé le corps de lui, ah, il a un bon corps, il fait tout pour les autres. Qu'est-ce que dit la famille de David par rapport à son corps? On va lire ça. Qu'est-ce que dit ses frères? 1 de Samuel 17, verset 8. 1 de Samuel 17, verset 8. C'est écrit. Bien. Non, c'est pas la. Je me suis trompé de version, je pense. Ah, 17, verset 28, pardon. Je rigole un peu parce que quand j'ai lu ça, j'ai lu une version espagnole et après je cherche, j'ai dit que la Louis II, pour moi, c'est la meilleure. Mais bon, c'est par rapport à mon français aussi. Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler avec, à ses hommes et il fut enflammé en colère contre lui. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu ici et à qui tu as laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton corps. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Qu'est-ce que pense son frère? Que David, le plus petit, il a un corps orgueilleux, avec de l'orgueil et de la méchanceté. Comment on peut se tromper en regardant les choses physiques, en regardant les choses pour notre yeux? Et plus tard, vraiment, bien sûr, il était vraiment trompé, son frère, mais plus tard, on peut voir le corps de David. Et c'est son corps qu'il parle dans Somme 42, versets 1 à 3. Les Psaumes 42, versets 1 à 3. C'est le vrai corps de David qui parle. Il dit, « Cantico des fils de Corée, comme une biche je soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après de toi, ô Dieu. » Wow! « Mon âme a soif de Dieu, de Dieu vivant. » Mon âme a soif de Dieu vivant. C'est son corps qui parle. Il cherchait quoi? À Dieu, à sa parole, à Dieu vivant. Qu'est-ce que pouvaient dire ses frères? Ah, lui, il est méchant. Qu'est-ce que dit le plus profond de lui? Mon âme a soif de Dieu. Comment elle est aujourd'hui votre âme, votre corps au plus profond? Il a soif de Dieu? Il a soif de Dieu vraiment? Qu'est-ce que dit plus tard la Bible? On va lire quelques versets. Parce qu'on peut se dire, vraiment, est-ce que je préfère Dieu ou je préfère le monde? Qu'est-ce qu'aurait répondu Saoul si je le demandais? Est-ce que Saoul, tu préfères le Dieu ou le monde? Et bien sûr, Saoul, il va répondre, je préfère Dieu. Qu'est-ce qu'il a montré avec ses gestes en essayant de tuer à David? Qu'il préfère le monde, qu'il préfère le royaume. En Matthieu 6, verset 24, Matthieu 6, verset 24, il dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il attachera un et mépriserait l'autre. Première des Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et un verset vraiment qu'on doit avoir tout le temps présent dans notre vie, c'est Matthieu 6, 33, où il dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Encore, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Chacun qui est là a des détails. Chacun qui est là, on a le temps compté. Malheureusement, on ne peut pas avoir des journées de 30 ou 40 heures. On ne peut pas faire tout ce qu'on a envie de faire. Chacun qui est là, peut-être n'est pas content avec sa maison, avec son appartement, avec sa voiture, avec sa famille, avec sa femme peut-être. Moi, je suis la plus belle, ça me va. Peut-être on a des détails, bien sûr, on a tous des détails. Peut-être je dis tout le contraire. Peut-être vous allez me dire, je suis très content avec ma famille, je suis très content avec les choses matérielles que Dieu me donne. Et gloire à Dieu, c'est ça. Parce qu'il y a une nouvelle étape dans votre vie. Il y a un nouvel chemin. Dieu prépare tout le temps des choses nouvelles. Et on peut tout le temps avancer avec Dieu, avec les choses qu'il nous donne. Mais dans tous les cas, le plus important, c'est d'avoir soif de lui. Pourquoi vous êtes un dimanche matin ici? On a soif de lui. Pourquoi vous êtes un mercredi soir à l'église? On a soif de lui. Pourquoi vous êtes un jeudi, un lundi? On a soif de lui. On voulait connaître et on a ce privilège de le connaître déjà. On va prier. Merci Seigneur. Merci parce que c'est toi qui nous donnes de soif de connaître ce Dieu authentique, un Dieu de vérité, un Dieu de grâce, de miséricorde. Un Dieu qui ne laisse pas de nous faire du bien chaque jour. Un Dieu qui nous donne des choses qu'on a besoin. Un Dieu qui nous écoute, qui nous guide, qui nous donne tout le temps ton amour. Merci pour les belles choses que tu nous donnes. Merci pour cette église, pour notre pasteur, pour les responsables, Seigneur. Merci pour chacun qui est là, qui te sert, qui te cherche à servir aussi. Merci parce qu'on a le privilège de pouvoir t'annoncer dans les rues, de t'annoncer avec nos familles, de t'annoncer avec nos amis, au travail. Merci parce qu'on ne se fatigue pas de t'avoir comme notre Dieu. On ne se fatigue pas de te connaître. Tout le temps de nouvelles choses, Seigneur. Tout le temps, tu nous donnes des exemples dans la Bible. Merci, Seigneur. Je te demande de venir ce culte, de venir chacun qui est là. Parle-nous pendant la semaine, Seigneur. Fais des miracles, Seigneur. Fais des miracles, Père. Venez à chacun qui est là, protège-nous pendant notre retour. Venez à notre pasteur et protège-le aussi, Seigneur. Merci, Père. Dans ton nom saint. Amen.